Bonjour et bienvenue sur les podcasts de Ciel et Espace, podcast en compagnie de Patrick Michel, astrophysicien à l'Observatoire de la Côte d'Azur, spécialiste des astéroïdes et responsable du groupe de planétologie dynamique. Patrick Michel, il suffit de regarder la Lune, et en particulier ses cratères, avec une petite lunette ou un télescope pour se dire « oulala ». Comme ça a dû cogner, comme ça a dû frapper, comme la surface de notre satellite naturel a été percutée par des tas d'objets. Est-ce que l'histoire du système solaire, puisque nous avons ce miroir au-dessus de nos têtes, finalement, ce n'est pas l'histoire permanente de collisions entre objets ?
Oui, les collisions ont en fait un rôle qui est fondamental dans toutes les phases, depuis la formation jusqu'à l'évolution actuelle du système solaire et jusqu'à son futur d'ailleurs. Et c'est vrai que la Lune est le meilleur témoin de ses impacts, puisque contrairement à la Terre, elle n'a pas d'atmosphère.
Pas d'érosion.
Elle n'a pas d'érosion, pas de tectonique des plaques, pas d'eau. Ça ne fait pas plouf quand ça tombe. Et donc, elle a gardé la trace des impacts passés depuis les 3,9 milliards d'années. Justement, je vais pouvoir expliquer pourquoi depuis les 3,9, alors que le système solaire a 4 milliards et demi d'années d'existence. Et donc, elle nous a montré que ces cratères sont... que ces impacts ont une fréquence qui est relativement stationnaire, c'est-à-dire que c'est constant. Alors... Première chose d'ailleurs intéressante, c'est qu'il a quand même fallu attendre les missions Apollo, les retours d'échantillons de la Lune, pour que toute la communauté scientifique accepte que les cratères qu'on observe sur la Lune étaient des cratères.
On pensait à quoi ?
Des volcans. On pensait que c'était des volcans, des cratères volcaniques. Et en fait, grâce aux échantillons lunaires, on a confirmé que l'activité volcanique était très très faible, voire nulle, sur la Lune, et que donc ces cratères-là étaient bien des cratères d'impact. Mais c'était quelque chose qui était très débattu dans la communauté des planétologues avant ça. Alors ensuite, ce qu'elle nous a apporté, ces échantillons, ce qu'ils nous ont apporté, c'est qu'ils nous ont montré que, en datant donc les surfaces lunaires et en comptant les cratères, on s'est donc aperçu que le taux de projectiles est relativement constant par unité de temps. C'est-à-dire qu'on a une population constante et des impacts de manière continue depuis les 3,9 milliards d'années, avec quelques fluctuations, mais c'est relativement continu.
Ça veut dire que ça pleut tout le temps avec la même intensité.
Oui, mais bien sûr, en fonction de la taille, plus les corps sont gros, moins la fréquence est élevée. Mais quand on dit, par exemple, qu'un corps de 1 km de diamètre tombe tous les 500 000 ans sur Terre, alors c'est en moyenne, mais c'est effectivement ça. C'est-à-dire que c'est quelque chose de constant. On a à peu près, si on compte les cratères sur la Lune produits par des projectiles de 1 km de diamètre, on s'aperçoit qu'ils ont tous une différence d'âge de 500 000 ans. Bon, je simplifie, mais en gros, c'est un petit peu ça. Et ça, évidemment, ce qui vaut sur la Lune vaut sur Terre, puisque la probabilité de collision sur toutes les planètes est à peu près la même. Simplement, encore une fois, la Terre a tendance à effacer les cratères, nous laisse les plus anciens, et il est très dur d'identifier les cratères sur Terre.
Alors, on parle d'une phase intense de bombardement météoritique au début du système solaire.
Oui, alors on a en fait, donc le système solaire, déjà il s'est formé, les planètes se sont formées par collision. Ça paraît trompeur, on pense collision, catastrophe. Non, non. Au départ, dans le système solaire, on avait des poussières qui évoluaient dans un disque de gaz. Et ces poussières, subissaient des collisions les unes avec les autres à des vitesses très faibles, le mètre par seconde. Et ce qu'on a déjà montré en laboratoire, c'est que quand des poussières de la taille du micromètre, ce qui était la taille initiale des poussières qu'ont fabriquées nos planètes, rentraient en collision à des vitesses justement de 1 mètre par seconde ou moins, elles se collaient les unes aux autres. Pas du fait de leur attraction gravitationnelle, parce qu'elles sont trop petites, mais par des forces qu'on appelle les forces de van der Waals, qui sont des forces qui permettent à des petites particules de se lier entre elles, force électrostatique, et donc de se coller. Et ensuite, ces corps ont commencé donc à croître par ces collisions dans le disque de gaz, et petit à petit, elles se sont agglomérées. Sauf qu'on a encore un problème dans les modèles de formation planétaire, c'est que autant on arrive à comprendre la croissance des grains de la taille du micromètre à la taille du centimètre. Et ensuite, on arrive à comprendre, on a des modèles qui permettent de fabriquer les planètes en partant d'objets de taille sublunaire. Donc on est déjà au-delà de quelques centaines de kilomètres de diamètre. Et ça, on arrive du coup à former plus ou moins bien, hein, parce qu'on a encore des problèmes, les planètes. Par contre, on a un énorme problème, et ça fait partie d'ailleurs des projets que j'ai actuellement, c'est de comprendre la phase de croissance de grains centimétriques au kilomètre. Parce qu'au-delà du kilomètre, vu les vitesses de collision qui étaient en jeu, ça s'agglomère bien. En dessous du centimètre, ce sont justement des forces qui collent très bien, qui permettent de faire coller les corps. Par contre, faire coller deux corps de 1 cm, vous les prenez dans la main, ils ne se collent pas. Hein. Alors, à moins que vous ayez de la colle. Et c'est pareil, les vitesses à laquelle ces corps se rencontraient dans les premières phases de formation planétaire étaient de quelques mètres par seconde, sachant que leur vitesse de libération, pour se libérer de leur attraction, est à peine de 1 cm par seconde. Donc, il faut un mécanisme de dissipation d'énergie hyper violent pour qu'une collision de 10 mètres par seconde fasse que les fragments ne vont pas s'éjecter à plus de 1 cm par seconde. Et ça, on ne sait pas faire. Alors, il faut trouver des mécanismes novateurs. Alors, il y a aussi le fait que peut-être que dans le disque de gaz, il y avait des tourbillons et que ces tourbillons, on sait que quand on met des particules solides dans des tourbillons, ils vont être capturés par ces tourbillons. Et donc, petit à petit, ils vont être les unes avec les autres. Et pour peu qu'ils restent ensemble, on va provoquer ce qu'on appelle un mécanisme d'instabilité gravitationnelle, ce qui fait que toutes ces particules, elles vont produire en tout une masse très grosse qui va, boum, s'effondrer pour former un corps. Mais ça n'a pas été encore simulé. Mais bon, la Terre est là, donc il y a eu un mécanisme qui nous a permis, par collision, d'arriver à former ces planètes.
Pourtant, elle tourne.
Et elle tourne. Donc, et elle est là. Par contre, alors, une fois qu'on a passé cette phase-là, on avait des gros planétésimaux, ce qu'on appelle les planétésimaux, ce sont en fait, encore une fois, ce sont les précurseurs et en même temps reliquats des planètes. Certains sont devenus les astéroïdes. Et ces planétésimaux, eh bien, ont évolué et certains ont produit des collisions majeures, comme par exemple une collision dont on pense qu'elle est à l'origine de notre Lune, puisqu'on pense qu'un objet de la taille de Mars a été simulé. Pour peu que les simulations nous représentent une réalité, ça a été simulé avec un corps de la taille de Mars qui rentre en collision avec la Terre, et bien, avec la proto-Terre, j'allais dire, elle peut arracher une partie de son manteau, se mettre en orbite, et on arrive à former ainsi le système Terre-Lune. Et ça, ça marche bien. Mais donc, ça veut dire que les collisions ont vraiment non seulement fait croître des corps pour former les planètes, et elles ont structuré notre système solaire, et elles nous permettent d'expliquer certaines de ses propriétés, que ce soit aussi bien la formation de la Lune, que justement l'axe de rotation de... Alors c'est Uranus qui est à 90 degrés par rapport au plan de son orbite, et ça on l'explique justement aussi par une collision. Donc toutes ces collisions nous ont structuré notre système solaire, en fabriquant les planètes là où il faut, en fabriquant les satellites des planètes, en tout cas pour la Lune, et en expliquant certaines propriétés. Et ensuite, alors on a eu surtout une phase de bombardement intense qui nous est montrée par les mers lunaires, qui nous indique qu'il y a probablement eu un cataclysme il y a 4 milliards d'années, violent, beaucoup plus violent que les phases avant et beaucoup plus violent que les phases suivantes, puisque maintenant on est dans un état à peu près stationnaire, mais relativement peu intense. Et il y a eu un pic à un moment donné, il y a 4 milliards d'années. Et ça, ça a été un problème majeur. On l'appelle en anglais le late heavy bombardment, ça veut dire le bombardement intense tardif. Alors pourquoi tardif ? Parce qu'il a eu lieu à peu près 800 millions d'années après la formation du système solaire. 800 millions, plus ou moins 100 millions, enfin bon, c'est à peu près ça. Donc il n'a pas eu lieu immédiatement. Il n'a pas eu lieu tout de suite lors de la formation. Lors de la formation, il y avait plein de collisions qui ont permis de former les planètes, mais il n'y a pas eu un bombardement violent, qui, heureusement d'ailleurs, qui cassait tout. Et il a eu lieu donc à 800 millions d'années. Alors pourquoi 800 millions d'années ? Donc il fallait trouver un mécanisme qui permette de retarder, puisqu'on l'appelle bombardement intense tardif, même si on est encore dans des phases très jeunes du système solaire, mais tard par rapport à la formation initiale, qu'il fallait retarder ce bombardement. Et ça, on a eu du mal à l'expliquer. Et récemment, des collègues de mon groupe à Nice, Alessandro Morbidelli et son équipe, eh bien, ont fourni un scénario qui permet d'expliquer ce bombardement intense tardif. Et il est parti d'une hypothèse qui était au départ pas évidente, mais en fait qui est pas, paraît parfaitement cohérente, c'est que notre système solaire au départ était, en tout cas pour les planètes géantes, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune, étaient à des distances plus faibles que celles actuelles. Elles étaient formées, si vous voulez, en fait, en gros, notre système solaire actuel, il y a plusieurs contraintes qu'il faut expliquer. D'une part, ce bombardement intense tardif qui a eu lieu il y a 4 milliards d'années. D'autre part, le fait que Jupiter et Saturne ont des excentricités, leurs orbites ont des excentricités qui sont non nulles. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas sur des trajectoires circulaires autour du Soleil, elles sont sur des trajectoires légèrement allongées. Et ça, pareil, c'est un problème parce que quand on pense à la formation des planètes, en général, on a tendance à produire des grosses planètes sur des trajectoires circulaires. Donc c'était une deuxième chose à expliquer. D'autre part, on a une ceinture de petits corps au-delà de l'orbite de Neptune, qui s'appelle la ceinture de Kuiper, qui est située au-delà de la trajectoire de Neptune et qui partage d'ailleurs la trajectoire de Pluton, etc. Et cette ceinture, elle s'arrête subitement à 50 unités astronomiques, 50 fois la distance Terre-Soleil. Donc il y a différentes contraintes qu'on essaie de reproduire. Et quand les chercheurs essaient de faire des modèles pour expliquer ces contraintes, s'ils en reproduisent une, c'est incompatible avec l'autre.
Donc il fallait trouver un système qui permette
d'expliquer toutes ces contraintes
dans son ensemble.
Avec en plus aussi la population des astéroïdes troyens, dont nous n'avons pas parlé, qui est une population d'astéroïdes qui, donc la plupart sont entre Mars et Jupiter, et on a une population qui distingue de cette ceinture des astéroïdes entre Mars et Jupiter, qui est la population des astéroïdes troyens, qui sont situés sur la même orbite que Jupiter, à 60 degrés de part et d'autre de la planète.
Qui précèdent et suivent la planète.
Et en fait, c'est toute la beauté d'ailleurs de la théorie, c'est qu'on appelle ces positions-là les points de Lagrange, parce que Lagrange avait montré, donc au 19e siècle, début 19e, quand on fait un calcul du problème des trois corps, c'est-à-dire le problème dans lequel on a un Soleil, une planète, donc Jupiter, et des petits corps qui n'ont pas d'effet sur les planètes, donc sans masse, dans ce problème-là, on a des trajectoires qui sont très stables, qu'on appelle les points de Lagrange maintenant, puisque c'est lui qui les a identifiés, et qui sont à 60 degrés de part et d'autre de Jupiter, des trajectoires d'équilibre. Mais ça, c'était purement théorique.
Alors, Patrick Michel, quel est ce scénario qui explique à la fois le bombardement intensif tardif que l'on peut voir, dont on peut voir les traces sur la Lune, qui explique aussi les orbites excentriques de Jupiter et Saturne, et la présence d'une ceinture de corps dite de Kuiper, pas au fin fond du système solaire, mais au-delà, en tout cas du côté de Pluton plutôt.
Alors, l'idée originale qu'ont eu mes collègues, c'est qu'ils se sont dit, peut-être que le système solaire au départ était effectivement formé des quatre planètes géantes sur des trajectoires circulaires et qui étaient plus proches du Soleil. C'est-à-dire que cette fois-ci, on met Neptune au lieu d'être à une trentaine d'unités astronomiques, on le met à moins de 20 unités astronomiques du Soleil. Et puis toutes les planètes, pareil, Jupiter et Saturne, à peu près à leur position, mais pas tout à fait, un peu différentes. Et ces planètes étaient entourées par une ceinture de petits corps, qui est donc cette ceinture de Kuiper, mais sauf que cette ceinture était plus proche que de la trajectoire que la trajectoire actuelle. Et ça, il n'y a pas de raison de penser que c'est absurde. Après tout, si ça reproduit, encore une fois, ce qu'on essaie d'expliquer, c'est ce qu'il y a actuellement. On ne sait pas ce qu'il y avait avant. Donc partir d'une hypothèse qui était d'autant moins absurde que s'il s'agissait de partir d'une hypothèse où les planètes étaient sur des orbites très allongées, mais justement, tous les modèles de formation planétaire disent que non, en général, on part de trajectoires qui sont circulaires. Ah ben là, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont mis sur des trajectoires circulaires. Et ce qu'ils ont trouvé, c'est que les interactions, donc quand on a un disque de petits corps autour de ce système planétaire plus étroit, petit à petit, l'attraction de ce disque, les forces d'attraction de ce disque sur les planètes, comme le disque est un petit peu à distance par rapport aux planètes, elles vont se construire petit à petit. Et elles vont mettre quelques centaines de millions d'années avant de produire leurs effets. C'est ce qui nous arrange, puisque ce bombardement planétaire a eu lieu de façon assez tardive, 800 millions d'années après la formation. Donc, et on voit que quelques centaines de millions d'années, ce disque de planétésimaux a tendance à faire bouger ces planètes un petit peu. Et il se trouve qu'il y a une région entre Jupiter et Saturne qui est très instable, qui est la région dans laquelle Jupiter fait deux tours autour du Soleil, tandis que Saturne en fait une. Un tour. Tandis que Saturne fait un tour. Ce qu'on appelle la résonance 1 sur 2. Et il se trouve qu'au miracle, tandis que ces petits corps évoluent à l'extérieur de ces planètes, eh bien, ils vont les perturber de telle manière qu'à un moment donné, Jupiter et Saturne vont passer dans cette résonance. Et quand Jupiter et Saturne passent dans cette résonance, une résonance, ça déstabilise un peu les orbites. Du coup, Jupiter et Saturne, mais très brutalement, vont avoir leur trajectoire qui va s'allonger, donc leur excentricité va s'allonger, et d'ailleurs atteindre les valeurs actuelles. De ce fait, parce que ça va produire une perturbation violente, Uranus et Neptune vont migrer vers l'extérieur, se déplacer vers l'extérieur pour rejoindre leur trajectoire actuelle. Et ça, c'est les simulations qui le montrent. On ne triche pas, on ne met pas à la main. C'est vraiment le résultat des calculs. Et du fait de cette migration planétaire et de ce passage dans cette résonance, le disque de planétésimaux, donc ce disque de débris qui entourait au départ ces planètes, une grande partie a été injecté dans le système solaire interne et a produit de manière violente et avec retard donc ce bombardement tardif à 800 millions d'années. Il a injecté à peu près 2,5 fois la masse de la Terre, ce qui est ce qu'on estime avoir été à l'origine du bombardement planétaire, pendant quelques millions d'années. Et le reste a formé la ceinture de Kuiper. Et cette fois-ci, là où il faut, parce que Uranus et Neptune ont eu tendance à un peu pousser, en migrant vers leur trajectoire actuelle, vers l'extérieur, ce disque. Et en plus, le fait que ce disque s'arrête à 50 unités astronomiques, ben, c'est simplement parce qu'avant, il s'arrêtait avant. Et il a été poussé un peu vers l'extérieur et ça a produit cette ceinture de Kuiper.
Donc c'est un véritable scénario de migration planétaire, voilà, qui est proposé,
exactement.
Avec pour conséquence un bombardement météoritique intense sur une période finalement assez courte dont on trouve les traces sur la Lune.
Exactement. Et alors l'avantage aussi, c'est qu'on explique la population des astéroïdes troyens qui sont à 60 degrés de part et d'autre de Jupiter, parce qu'au départ on pensait que cette population était primordiale, c'est-à-dire qu'elle avait été formée en même temps que Jupiter et qu'elles étaient restées sur ces orbites stables. Et comme elles sont stables, on se dit, si elles sont stables, elles le sont dans un sens comme dans l'autre. C'est-à-dire que si on ne peut pas en sortir, on ne peut pas y rentrer non plus. Donc elles devaient avoir été formées là. Sauf qu'on se disait, oui, mais attends, parce que s'il y a eu un bombardement planétaire 800 millions d'années après la formation de Jupiter, si moi j'envoie du matériau depuis l'extérieur pour provoquer un bombardement violent, j'aurais dû enlever ces corps avec. Donc c'est pas possible. Et en fait, ce qu'on s'est aperçu, c'est que quand on fait rentrer ce disque de planétésimaux dans le système solaire interne, eh bien il y a une partie qui va être capturée par justement ces points d'équilibre autour de Jupiter, qui n'étaient pas des points d'équilibre au départ, mais qui le sont devenus parce que Jupiter a bougé. Et donc pendant que c'était pas à l'équilibre, les corps y allaient. Et puis Jupiter, boum, bouge et ça devient un point d'équilibre. Donc il bouge plus.
Alors la question évidemment corollaire que l'on se pose, c'est si ça a bougé, est-ce que ça peut encore bouger? Est-ce que le système solaire tel qu'il est actuellement est stable? Est-ce que les planètes sont sur leurs bonnes orbites?
Alors les planètes sont sur leurs bonnes orbites parce qu'il n'y a plus assez de masse, de quantité de matériaux, de petits débris pour produire les mêmes effets et faire encore migrer les planètes. Tout a été évacué, justement, tout a été vidé pendant ces phases-là. La ceinture des astéroïdes continue à se dépeupler, elle correspond à un millième de la taille de la Terre, de la masse de la Terre, pardon. Donc, on est tranquille. En revanche, c'est vrai que, par exemple, Jacques Lascar, de l'Institut de mécanique céleste, eh bien, a montré que le système solaire était chaotique sur des échelles de temps de plusieurs millions d'années, du fait qu'il y a des interactions résonantes entre les planètes. Les planètes elles-mêmes, ben, comme la résonance 1 sur 2 entre Jupiter et Saturne, il y a des interactions résonantes avec Mercure, la Terre, Mars, qui font que si on fait le calcul sur plusieurs millions d'années de l'évolution du système solaire et qu'on fait varier infiniment les conditions initiales, on voit qu'on peut avoir un système solaire dans lequel Mercure va devenir une comète, etc. Mais c'est attention, c'est trompeur, parce que ça ne veut pas dire... C'est pas parce que le système solaire est chaotique dans ce sens-là, c'est-à-dire sensibilité des conditions, sur les conditions initiales, que les planètes vont être éjectées. Peut-être qu'elles sont stables, mais simplement on peut trouver des solutions, des conditions initiales qui les rendent instables du fait qu'il y a des phénomènes résonants. Mais c'est quand même un mécanisme différent de celui qui est à l'origine du bombardement planétaire tardif, puisque le bombardement planétaire tardif est dû à cette présence d'un disque massif de planétésimaux qui perturber les planètes, tandis que là, le fait que le système solaire est actuellement chaotique, c'est plus dû aux astéroïdes et aux comètes, c'est dû aux interactions entre les planètes elles-mêmes.
Alors, je voudrais conclure avec cette image qui a démarré notre entretien, celle de la surface de la Lune, criblée de cratères. Est-ce que vous imaginez ces débuts du système solaire avec ces bombardements qui ont créé à la fois des bassins, des cratères énormes à la surface de notre satellite naturel? C'est vraiment un événement tout à fait extraordinaire qui n'a pas eu de témoin.
Ah non, celui-là, il n'a pas eu de témoin. Nous, on aura éventuellement le témoignage d'impact, j'espère pas sur mon échelle de temps, mais d'impact majeur qui peuvent bouleverser la Terre, son atmosphère et voire même les espèces vivantes. Mais les seuls témoins qu'on a, c'est justement ce que la Lune et les petits corps nous permettent de voir. Ce sont les meilleurs témoins. C'est pour ça qu'il est essentiel d'aller d'aller voir ces corps-là, parce que c'est eux qui nous renseignent sur notre histoire. On essaie de comprendre l'histoire de l'humanité grâce aux historiens et à ce que nos ancêtres ont laissé sur Terre. Ben, ces petits corps nous renseignent sur, pas l'histoire cette fois-ci de l'humanité, mais l'histoire du système qui a fait que l'être humain a pu apparaître.
Et on peut les faire parler.
Et on peut les faire parler, et à chaque fois, ils nous bouleversent nos connaissances. Pour le coup d'une mission spatiale, c'est quelques jours de guerre en Irak, et à chaque fois, on apprend énormément de choses qui ont d'ailleurs aussi parfois des implications sur l'industrie.
Merci Patrick Michel, merci à vous de nous avoir suivis, et rendez-vous évidemment au prochain épisode.